Il a été policier, il a été ministre, il est maintenant en dehors de la politique. Et pour parler de ses nouvelles fonctions, on rejoint Robert Poetti, qui est maintenant PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bonjour, M. Poetti.
Hey, bonjour à vous.
Comment ça vous va être en dehors de la politique, premièrement?
Ben, ça me va bien, honnêtement. Ouais. Je suis obligé de dire
de souriant, tu sais.
Oui, ben, c'est souriant, mais je souriais aussi à l'occasion là, en politique. Pas pendant 7 ans, là, mais j'ai quand même souri assez souvent. Vous savez, mais des fois, je souriais moins. D'ailleurs, j'entendais tantôt Mme Dorion qui disait, il y a des petits bouts qu'elle trouve un peu plus durs. C'est normal. Mm-hmm. Parce qu'il y a une adaptation, un ajustement. Et c'est un milieu que j'ai apprécié. On travaille directement pour les citoyens. Maintenant, 7 ans, 8 projets de loi plus tard. Je suis à autre chose maintenant, et sur le plan de la Corporation des concessionnaires automobiles, il faut le dire, ça représente 99 de l'ensemble des concessionnaires. Donc, partout où vous voyez un concessionnaire au Québec, bon, 99% sont regroupés et la Corporation les représente à bien des égards. Donc, évidemment, pour eux, mais aussi pour les citoyens. Et je pense que le milieu de l'automobile a évolué énormément et je pense qu'il est méconnu, autant sur le plan économique, sur le levier économique.
Monsieur Poetti, justement, je vais vous reparler de politique dans une seconde, mais restons sur l'automobile. Vous arrivez à la tête de cette organisation-là au moment où l'industrie est à un carrefour. Là.
Complètement.
D'abord, la façon de vendre est en train de changer de façon radicale. Les technologies changent de façon radicale. Oui. Les marques changent. En fait, c'est vraiment...
Les groupes, les regroupements. Avant, vous ne voyez pas, vous avez un concessionnaire. Maintenant, il y a 7, 8 ou 9 constructeurs différents. Vous avez tout à fait raison, Luc. J'arrive dans un moment où, et je dis souvent, j'ai enseigné en technique policière puis pendant 8 ans, puis je leur disais, vous savez, si je vous enseigne la police comme je l'ai apprise, vous allez être vraiment mauvais. Et je pense que le milieu de l'automobile est la même chose. L'évolution du milieu de l'automobile est importante. Il y a plus de 60% des véhicules qui sont vendus actuellement qui sont écologiques, donc qui ont un niveau de consommation très bas. Mais au-delà de ça, la façon de vendre une voiture, les lois, les règlements, on travaille avec l'AMF, on travaille avec la corporation, évidemment, travaille avec l'Office de protection du consommateur. Les documents, lorsque vous allez chez le concessionnaire, évidemment, doivent être transparents. On doit signer les choses, les montrer. Donc, ce n'est plus ce que c'était, mais moi, ce que j'aime dans le volet de l'automobile, c'est tous les changements que tu soulèves, Luc, sur le plan technologique, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la vente, des regroupements et aussi de l'adaptation que les concessionnaires doivent faire pour répondre à la demande des consommateurs, mais en même temps répondre aux besoins de la société et aux nos enjeux. Donc, quand je pense sur le volet énergétique, on est là. Vous savez qu'au Canada, 50% de tous les véhicules électriques qui sont vendus au Canada sont achetés au Québec.
C'est vrai, je savais pas ça.
Au Québec. Et là, l'Ontario vient de donner tout un coup de main. Imaginez-vous, Doug Ford a décidé il y a quelques semaines de couper l'incitatif, donc la réduction. Au Québec, dans certains cas, vous avez 8 000 $ dépendamment du type de véhicule. L'Ontario le faisait même un peu plus haut que ça et il vient de l'arrêter complètement. Mais moi, je vous annonce qu'actuellement au Québec, non seulement dans la région de l'Outaouais, il y a des concessionnaires québécois qui se sont fait offrir les voitures qui devaient rentrer électriques en Ontario, s'en viennent au Québec. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
À quel point cet incitatif-là est encore nécessaire pour vendre des autos électriques présentement?
Il est nécessaire tant et aussi longtemps que lorsque... Vous savez, c'est un vieux concept. Bien, évidemment, plus vous en avez sur le marché, plus il devient abordable. La compétition s'installe dans le milieu de l'automobile. C'est correct, c'est une saine compétition. Donc, plus les véhicules sont accessibles, plus la technologie évolue, ben le coût baisse. Alors actuellement, oui, ils sont encore un peu plus chers. Ils sont plus chers, en fait, il faut le dire, qu'un véhicule à essence. Mais l'incitatif et ensuite l'économie que vous faites en l'utilisant sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, dépendamment de votre kilométrage, est important. Il faut absolument qu'on continue à avoir cet incitatif-là, encore pour une bonne période, parce que si on veut devenir la province en Amérique du Nord, et je vais aller plus loin que ça, qui est un modèle, parce que la force qu'on a, nous, c'est l'électricité. Elle est ici.
Chez les concessionnaires, est-ce qu'on se sent prêt à ça? Est-ce que c'est une volonté qu'on a de pousser l'électrique à ce point-là?
Il y a 2 semaines, je suis allé à Saint-Hyacinthe, qui est le M. Breton, qui était au Parti québécois déjà, a organisé un salon, mais en collaboration avec l'ensemble des concessionnaires de la région de Saint-Hyacinthe. Et il y a eu, je pense, c'est pas loin de 30 000 personnes. L'année d'avant, il me disait, je suis peut-être la moitié, où tous les marques sont là confondues, donc hybrides, branchables, hybrides non branchables, donc des voitures plus écologiques et il y a un intérêt vraiment pour ça. Et je pense qu'on doit aller là. Ça va faire plaisir à Catherine de nous entendre là-dessus, mais on peut pas annihiler l'automobile. Ouais. Là. Il y a des besoins.
Exact.
Vous savez, c'est un levier économique extraordinaire. Je voyais sur un camion il n'y a pas longtemps, si vous avez reçu votre colis, c'est parce qu'un camion vous l'a apporté. tout le volet du déplacement en milieu urbain, je la comprends très bien. On peut faire mieux en milieu urbain. Je pense que les grandes villes, Montréal, Québec, qui travaillent avec le REM à Montréal, donc être capable de se déplacer en milieu urbain d'une autre façon, moi, je pense que c'est possible. Mais la spécificité du Québec est grande, là.
Mais Robert, dites-moi, il y a encore 10 ans, disons, tu allais t'acheter une voiture, là, puis... Si t'étais dans le haut de gamme, t'allais avoir un GPS avec ça, là, puis quelques affaires du genre. 10 ans plus tard, c'est complètement révolutionné. Ce sont les voitures branchées.
Ben oui.
Et comment les concessionnaires vivent ça? T'sais, autrefois, ils vendaient une voiture, puis ils disaient, regarde, t'as les vitres électriques là-dessus, puis t'as un chauffage thermostatique.
On va donner les tapis.
Ben, non, c'est on va donner les tapis.
C'est plus ça aujourd'hui. On
et là, est-ce qu'ils ont dû se recycler? Comment, tu sais, le pitch que tu fais à un client, il a changé. Oui.
Ils sont obligés de se recycler. Et sur le plan législatif, il y a eu des projets de loi qui ont été adoptés. Sur le plan de l'autorité des marchés financiers, sur le plan des assurances, sur le plan de la protection du consommateur, on travaille en collaboration avec le CAA où il y a une table de médiation lorsque il y a des problématiques. Les concessionnaires sont obligés de s'adapter. Il y a aussi un investissement majeur de la part des concessionnaires. Quand vous entrez généralement dans chez un concessionnaire, avez-vous remarqué le bâtiment? Mais ce bâtiment-là, il est en fait, dans bien des cas, majestueux, très beau, invitant, ça coûte de l'argent. C'est aussi des taxes qui reviennent aux villes. Donc, vous savez, c'est 40 000 emplois directs, très bons emplois, 40 000 emplois directs, et vous pouvez doubler ou tripler en emplois indirects. Donc, pour le Québec, une force économique importante et aussi, je vais le dire comme ça, mais les concessionnaires récoltent bénévolement les taxes pour le gouvernement. Là. Quand vous faites la transaction, les taxes sont perçues et remises au gouvernement. Cette industrie-là, Luc, doit absolument s'adapter. Elle le fait actuellement, mais c'est pas facile. C'est pas facile et la spécificité du Québec et des besoins des citoyens. Il y a des gens qui ont besoin d'une petite voiture, il y a des gens qui ont besoin d'un camion, il y a des gens qui ont besoin entre les deux, puis les moyens sont différents aussi. Donc, les concessionnaires sont là pour répondre à ça, et je pense qu'ils le font bien, mais en s'adaptant à la clientèle et à la réalité du marché.
Vous savez comment, vous êtes bien placé pour le savoir, les enjeux de transport, ça polarise. Hein? L'automobile, ça polarise énormément. Avez-vous l'impression qu'il y a une frange de la population qui fait la guerre à l'automobile?
Il faut pas faire la guerre. Je pense qu'il faut absolument, et tantôt, encore une fois, quand j'entendais l'entrevue en m'en venant, vous savez, lorsqu'on est élu à l'Assemblée nationale, on est content que les gens dans notre comté nous ont élus. Il faut se rappeler quand même que les gens dans notre comté n'ont pas tous voté pour nous autres. Alors, il faut accepter et il faut aussi travailler avec l'ensemble de la population. Pour moi, la démocratie est essentielle. Donc, à ce moment-là, les hommes et les femmes politiques doivent recevoir la demande de tous les citoyens. Mais particulièrement, peut-être à Québec, je vais le dire, parce que moi, je vis le meilleur des deux mondes. Hein? J'avais la moitié de ma vie à Montréal, la moitié de ma vie à Québec. Je vivais à Montréal, j'avais un pied à terre à Québec. Aujourd'hui, je vis à Québec, j'ai un pied à terre à Montréal. J'ai été capable de voir les deux. Et j'apprécie les deux villes. Mais ici, évidemment, les débats sur la congestion, bon, les gens qui sont habitués à Montréal vont dire il y a peut-être pas tant de trafic à Québec, mais les gens qui y vont pas à Montréal de Québec, ils trouvent qu'il y en a beaucoup. Et là, ben les projets sont en place. Le transport collectif reste une solution en milieu urbain. Il est important, il est essentiel, mais la spécificité du Québec nous amène aussi ailleurs où les gens doivent se déplacer à l'extérieur. Et ce débat-là va continuer de se faire, mais il doit se faire dans la paix. J'entendais tantôt, on sent que parfois, effectivement, ça a l'air d'une guerre. Ça devrait pas. Il faut pas que ça soit comme ça. On n'arrivera pas à des bonnes solutions ensemble, si c'est un contre l'autre.
Parce qu'il y en a des qui ont les dents qui grincent quand tu parles d'élargissement d'autoroute ou de pont ou d'automobile. Il y a vraiment quelque chose dans l'air qui fait en sorte que peut-être faudrait redorer le blason de ce qu'est le secteur de l'automobile au Québec.
Ben, de l'automobile, mais aussi de l'ensemble de la philosophie des citoyens. Quand vous dites élargir, moi j'avais voulu à Québec le faire. Donc, on élargit une voie additionnelle pour les véhicules électriques, pour le transport collectif, puis les gens qui sont deux personnes à véhicule, là, il y a trop de tours, on va à toi. Ça n'a pas été hyper bien complètement reçu, disons
pas tout à
ça.
Fait.
Mais c'est ça.
On va arriver
là.
Mais Robert, parlons-en de politique. Il me semble que quand vous avez quitté, là, c'était drôle. Là. Vous avez drôle. C'est drôle la façon que vous avez fait ça.
Ah, mais laquelle, cette fois-ci? Ah non, mais c'était pas drôle du tout. En fait, c'était vraiment sérieux. Puis pour moi, c'est drôle parce qu'il y a eu des commentaires un peu comme le vôtre, ou en tout cas minimalement un questionnement. Vous savez, le lieu le plus réel, le lieu le plus vrai, le lieu où tout le monde, et le premier ministre le premier le disait, tous les députés et ceux qui ont des fonctions ministérielles sont égaux. Ça s'appelle le caucus. Ça, c'est l'endroit où on s'assoit tout le monde ensemble, incluant le premier ministre, et tout le monde a le droit de parole. Et le PM disait régulièrement, le caucus, on peut avoir des fonctions ministérielles, nous sommes tous égaux ici, et nous devons et nous pouvons nous exprimer. Et moi, quand j'ai décidé de dire au caucus, pas parce que cette année, là, ceux qui ont quitté, il n'y en a pas un ou une qui est arrivé au caucus sans qu'on l'ait appris une heure ou une journée avant dans un journal ou à la radio. Et moi, il me semblait que par loyauté pour mes collègues et le premier ministre, l'endroit où le dire, c'était au caucus. C'est ce que j'ai fait et en même temps, je l'ai diffusé aux médias pour que vous le sachiez aussi également. Pour moi, c'était l'endroit le plus noble pour le faire et si le premier ministre n'avait pas été là, je ne l'aurais pas fait.
Bon.
De cette façon-là.
Maintenant, vous avez quitté la politique, là, vous avez quand même été là 7 ans.
Oui.
Êtes-vous surpris du résultat du 1er octobre?
Écoutez, vous savez, je pense que vous connaissez ma transparence, Luc. Moi, j'avais dit à certaines personnes, il va y avoir un tsunami. Et je l'avais écrit dans une enveloppe et quelqu'un que j'apprécie beaucoup m'a dit « Robert, tu fabules, tu dois être frustré. » Je suis pas. Il y a une tendance planétaire actuellement au requestionnement, au changement et à la définition de qu'est-ce qui est la politique et où le peuple se retrouve. Et c'est une tendance extraordinaire. On l'a vu aux États-Unis, on a dit « Ouais, Trump, c'est gros un peu, admettons que c'est une exception. » Nos voisins, Doug Ford, première affaire qu'il a faite, c'est enlever tous les programmes sur l'environnement, c'est se sortir de l'environnement. Alors, c'était un peu étonnant de voir Doug Ford arriver là. Et là, on parle du Brésil. Pensez au Brésil, ce qui vient. On s'est dit, voyons, c'est impossible que ce gars-là rentre. Non. Mais il y a 66 000 meurtres par année au Brésil. Alors, ils ont pris un gars qui dit, ben quand tu verras un bandit faire quelque chose de mal, ben la police va tirer dessus. Est-ce qu'on est là au Québec? Ben jamais de la vie, pour au Canada non plus. Donc, il y a une tendance planétaire de changement. J'étais pas surpris. Moi, j'ai pas pris ma décision en pensant qu'on rentrerait pas. J'avais pris ma décision en disant, moi, j'ai fait 7 ans. Je vais laisser la place à des jeunes, à d'autres personnes de venir en politique. Et je pense que la réponse des citoyens est égale à la hauteur du changement qu'ils veulent. Et le gouvernement en place ont aujourd'hui les coups des franges, c'est-à-dire qu'ils ont une majorité, ils ont la capacité, je le dis gentiment, pas méchamment, aussi les moyens, parce qu'ils sont pas arrivés avec ces 4 budgets équilibrés. C'est la vérificatrice générale qui a regardé les fonds avant l'élection. Donc, ils savaient ce qu'ils avaient en banque, pas en déficit. Donc, moi, je pense que c'était prévu, cette chose-là. Les sondages ne l'ont pas prévu de cette façon-là, mais je suis pas étonné de ce que les citoyens ont exprimé lors de la dernière élection.
Maintenant, pouvez-vous me dire, Robert, pourquoi le gouvernement, et là, vous êtes lié par des secrets du Conseil des ministres, tout ça, mais pourquoi ils ont choisi de mettre la vente du pot entre les mains d'un monopole d'État qui a été syndiqué une heure après son ouverture? Voulez-vous me dire comment on a fait tomber là-dedans?
Votre question est intéressante parce que moi, ce que j'ai dit il y a quelques jours, c'est une catastrophe de la façon dont le fédéral a imposé aux provinces cette décision-là. Qui plus est, rappelez-vous, il avait visé le 1er juillet. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui disait à M. Trudeau, « Justin, 1er juillet, c'est la fête du Canada. T'as-tu envie qu'on fête avec un joint de pot à la maison? » Là, tu sais, il faut se dire les vraies choses. Donc, ils l'ont à peine retardé. Ils ont laissé les provinces avec une certaine forme d'autonomie où certaines provinces à 19, d'autres à 21. D'ailleurs, je salue la décision de M. Legault de l'emmener à 21 ans pour des raisons de santé publique. Et la façon dont ça s'est fait, on a décidé que ça soit une société d'État. Honnêtement, aussi, j'ai été un peu surpris, mais c'est ce qu'on disait, en fait, ce qu'on nous a dit, c'était que c'était la meilleure façon de fonctionner. À la lumière de ce qu'on voit actuellement, c'est un échec, disons-le, parce qu'il donne tout un coup de main au crime organisé actuellement.
Quoi, en ils n'ont jamais été si heureux, le crime organisé.
Ah non, mais ils sont contents, ils les remercient à chaque jour que Dieu fait. Et la réponse que l'État prenne ça, faut que je vous dise, il y a des policiers du Québec qui sont allés au Colorado il n'y a pas longtemps, on se met souvent ça en exemple. Le Colorado a perdu complètement la bataille contre le crime organisé face au pot, à la marijuana. Alors, si on veut s'en inspirer, je pense qu'on est déjà en retard. Il y a un sérieux problème et ça m'inquiète et j'ai confiance dans nos jeunes. Moi, étonnamment, j'ai fait un peu rire de moi la semaine passée, si la SDQ qui vend le pot actuellement est à une entreprise privée, je ne sais pas si cette année elle va pouvoir continuer à fonctionner. C'est quand vous avez plus d'argent dans le privé, là, on ferme les portes.
Il n'y a pas aussi un peu le fait que quand le gouvernement se prend pour un commerçant au détail, il ne sait pas ce qu'il fait, alors que si tu avais mis ça entre les mains d'un vrai commerçant au détail, il n'y aurait pas eu tout le cafouillage qu'on a là.
Je le crois parce que je le dis constructivement, les entités gouvernementales, c'est comme un paquebot, hein? Ça peut traverser des tempêtes, c'est fort, ça a de la mémoire organisationnelle, mais ça se revire pas sur un dissous, puis ça s'arrête pas OK si jamais le moteur est défectueux. Et dans ce cas-ci, le fédéral a provoqué une action très rapide. Je suis allé à Saint-Jean, à Terre-Neuve, il y a à peu près un mois, et en marchant sur la rue la plus belle là, qui est bien jolie, où il y a les commerces, il y avait une pancarte qui était écrite « Désolé, on manque de stock, plus la semaine prochaine ».
C'est surréaliste. Hein?
Alors, c'est un peu... Quel mauvais cadeau en ce qui me concerne. Et la gestion de ça actuellement, ils m'aimeront pas, mais les gens qui s'occupent de ça ont un sérieux problème et ils ne le savent pas, mais... Je peux leur dire, les gens du crime organisé les remercient chaque jour.
Ils vont avoir des beaux cadeaux à Noël, qui vont recevoir ça, des Hells, des bouteilles de champagne.
Le crime organisé s'appelle le crime organisé, c'est pas pour rien. Le crime organisé actuellement sont à 5 $ le gramme. Alors, c'est pas les prix, c'est des
cubes.
Puis la mauvaise nouvelle, c'est qu'au Québec, et ça, c'est notre génération, Luc, et la mienne, qui a travaillé pour avoir un excellent pote. Au Québec, vous avez un excellent pote. Le taux de THC est très élevé. À travers le monde, les gens là, qui viennent ici et qui consomment notre pote, ils disent « wow ».
On est une destination pote à ce point-là?
Ben, c'est pas une destination pote, mais ceux qui en consomment s'aperçoivent de la qualité du pote. Ici, ça fait des années, notre génération, Luc, ça nous vieillit. Ça a commencé doucement, puis on s'est trouvé les meilleures cocottes, puis on a fait les meilleures affaires. Ben, on a un des meilleurs potes dans le monde.
Là, ça donne qu'à SQDC, quand vous y allez, il ne reste plus de pote avec du THC, c'est avec du CBD. Non, c'est ça, pareil. Les consommateurs le disent, le pote qui reste, c'est du pote plate. Il reste presque rien.
Donc, poser la question, c'est répondre. Est-ce que ça va bien? La réponse, c'est non. C'est une catastrophe.
C'est parce que s'ils veulent vraiment s'approvisionner, il faudrait qu'ils aillent s'asseoir avec la haute direction des Hells Angels.
Mais ça, encore ça, puis je suis pas méchant. On doit ça encore au fédéral. Ils ont tardé énormément à émettre des permis pour les entreprises qui voulaient le faire. Puis moi, aujourd'hui, je pourrais y penser, dire, bon, je suis un entrepreneur, je me lance-tu là-dessus, ça a l'air vraiment intéressant, les actions vont monter. Moi, je suis pas certain. J'ai hâte de voir dans un an, deux ans, trois ans, quels vont être les revenus de ça. Peut-être qu'en ligne, je ne sais pas, ça marche vraiment, là, mais on me dit qu'en ligne, il en manque aussi. Fait que...
Oui, il reste 7 produits en ligne, je vous confirme. Là. Il reste absolument rien, je le vérifie.
Bon, ah ben, merci.
Dernière question d'actualité, oui. M. Poëti. Bombardier, on met-tu encore d'argent là-dedans?
Ah, moi, vous savez, j'ai quitté la politique justement pour pas jouer à belle-mère. Je disais tantôt que le milieu de l'automobile, c'est 40 000 emplois, plus des emplois indirects, c'est 100 000 emplois. Je pense que l'industrie de l'aviation et Valco, au niveau des trains aussi, ont une reconnaissance. Mais actuellement, ce que je vais vous dire, c'est que je vais suivre l'enquête de l'AMF. Et je pense que suite à ce que l'AMF pourrait découvrir ou pourrait dire ou nous expliquer le portrait. Est-ce qu'il y a eu vraiment des délits d'initiés? Est-ce qu'il y a eu de la mauvaise gestion là-dedans? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de non, je dirais tout
non
à
conforme.
Fait conforme? Ben là, on aura une meilleure réponse actuellement, mais je comprends les employés, je comprends la situation de Bombardier. Je trouve ça malheureux qu'une entité comme celle-là se retrouve dans cette situation-là. Il faut aider pour les emplois au Québec. C'est l'objectif des gouvernements. Maintenant, sur le volet de l'administration de Bombardier, je pense qu'il y a des questions à se poser.
Monsieur Poëti, merci d'être venu ce midi.
Merci, Robert.
Fait plaisir. Salut, Luc.
Robert Poëti est maintenant président-directeur général de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec, 13h29.